votre animateur, Patrick Couture.
Pour moi, ça commençait là. À la fin de mon secondaire 3, au sommet de cette période disgracieuse de l'adolescence, quand toutes mes interactions avec mes amis se résumaient par « va chier, non, toi, va chier ». Tout d'un coup, je suis sur scène et 300 personnes m'applaudissent. Le feeling est fort, comme un coup de vent qui me transporte dans un monde où je suis enfin bien. Me v'là en amour avec la scène. C'est elle qui m'a mené à l'écriture. Je devais organiser mes idées de blagues pour en faire des numéros d'humour ou encore produire les textes des sketchs que je jouerais avec d'autres élèves. Pendant des années, tout ce que j'écrivais était voué à être interprété sur scène. Puis, tranquillement, ma pratique littéraire s'est détachée de mon premier amour. J'ai découvert le plaisir des mots destinés à ne vivre que dans l'intimité. Mais l'écriture et la scène sont toujours restées, pour moi, étroitement liées, comme les deux facettes d'une même passion.
Killing the guy.
Did you replace my gin with water, man?
Oh, my God.
No.
Come on.
Come on what?
Come on, you're drunk.
I'm drunk? Yes, I'm drunk. I'm supposed to be drunk. Why aren't you drunk? This is Carver.
Shh.
He left a piece of his liver on the table every time he wrote a fucking page. If I need to be drinking gin, who the fuck are you to touch my gin, man? Listen, you fucked with the period. You fucked with the plot since you could have the best line. You leave me the fucking tools that I need. Oh, come on, people. Don't be so pathetic. Stop looking at the world through your cell phone screen. Have a real experience. Does anybody give a shit about truth other than me? I mean, the set is fake. The bananas are fake. There's fucking nothing in this real part of your performance is fake. The only thing that is real on this stage is the chicken. So, I'm gonna work with the chicken.
That was interesting. Bring the curtain down.
Hey, that's good work, man.
Nous écoutions donc un extrait du film Birdman 2014 d'Alejandro González Iñárritu qui raconte l'histoire d'un acteur, Regan Thompson, connu pour avoir joué dans une série de films de super-héros et qui tente maintenant de se faire une place sur Broadway avec un spectacle assez ambitieux. La scène que nous entendions présentait une confrontation devant public entre Regan et le comédien Mike Shiner. Ce dernier se plaignait qu'on ait remplacé son gin par de l'eau. Enragé, il critique le fait que tout autour de lui est faux et que les artistes, comme le public, refusent de vivre une expérience vraie. Bon, c'est un excellent moment scénique qui se passe au cinéma. Ça met bien la table pour nos discussions autour de la scène et l'écriture. Donc, l'écriture, le cinéma, enfin, tout ça est lié quelque part. C'était une recommandation de la co-animatrice du jour, Eve Nadeau, qui a accepté de venir enregistrer ce dernier épisode du Cabaret du Crachoir avec nous, le dernier épisode de cette saison. Bonjour, Eve.
Allô!
Je suis super content que tu sois là. Et en plus, ben, tes recommandations sont toujours très justes. Cette scène-là, ça cadrait parfaitement pour ouvrir l'émission. D'ailleurs, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement? C'est quoi qui te plaît dans cette scène? Et pourquoi me l'avoir proposé aujourd'hui? Ben, je pense que, comme je disais, c'est évident. Mais,
oui, avec la scène. Mais j'aime déjà le chaos total me fait éclater de rire. Puis j'aime comment le réel s'empare de la scène, comment il embarque sur scène. Vraiment, ça, on dépasse les limites de la scène si on perçoit la scène, mettons, comme un espace strictement fictionnel. En tout cas, dans le cadre de cette pièce-là, je tiens juste à dire que cette pièce-là, dans le film, c'est une adaptation d'une excellente nouvelle du recueil « What We Talk About When We Talk About Love » de Raymond Carver, auquel le personnage colérique, justement, joué par Edward Norton, fait référence. Puis, justement, il se questionne, il dit... J'aime le rapport entre le vrai texte et la scène, comment qu'on adapte un texte, comment qu'on le reçoit comme comédien. Tu sais, il se dit, Carver, il laissait un bout de son foie sur table chaque fois qu'il écrivait une page, puis il était vraiment alcoolique. Puis il se dit, ben, c'est comme si lui se demande, il se disait, pourquoi moi je pourrais pas boire sur scène, puis vivre ça comme ça. Fait qu'il se questionne quant au réel, comment ça peut influencer son traitement de la pièce. Il est vraiment pas professionnaliste, mais professionnel, je veux dire. Mais non, c'est ça. Je pense qu'il est seul, on dirait, à ce moment-là, accorder une importance à la vérité puis à comme accorder une importance vraiment au public qui est là, mais de manière vraiment égoïste et bad, là. Puis je sais pas, je pourrais comprendre parler aujourd'hui justement comment qu'on fait embarquer le réel sur la scène, comment qu'on peut le traiter, là. Je trouve ça vraiment intéressant.
Ben oui, parce que bien sûr, ces questions de réalité et fiction se posent énormément dans l'écriture. Je pense encore plus avec les arts de la scène où là, il y a une présence corporelle, physique, qui nous rattache plus fortement au réel. C'est des discussions qu'on va pouvoir avoir effectivement avec nos invités du jour. Il s'agit d'abord d'Irma Bouchard. Elle est autrice, adjointe à l'édition aux éditions de la Maison en feu, auxiliaire de recherche pour le pôle Québec du projet Littérature québécoise mobile et administratrice au Bureau des affaires poétiques. À chaque fois que c'est la deuxième fois que je parle du Bureau des affaires poétiques et je trouve tellement le nom beau. Elle rédige actuellement un mémoire de maîtrise en études littéraires dans lequel elle s'intéresse à la représentation du corps et à sa mise en texte. Comme on le verra dans le texte inédit qu'elle nous lira, sa pratique littéraire est grandement influencée par la danse, art qu'elle a exercé pendant une quinzaine d'années. Bonjour Irma.
Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être ici.
Eh oui, merci beaucoup de te prêter au jeu, à cette expérience radiophonique pour une première fois, n'est-ce pas? Bien, merci d'avoir accepté d'être là. On accueille également Steven Lipotvin. Il est comédien diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Sa diplomation a eu lieu en 2016. Avant cette formation, il avait complété un baccalauréat en études littéraires à l'UQAR. En quelques années, il a cumulé les rôles dans des théâtres majeurs du Québec, en plus de prêter sa voix à de très nombreux projets. Sa création, l'incroyable et ineffaçable histoire de Sainte Dignité de l'avenir, dont on entendra un extrait aujourd'hui, est publiée chez Dramaturge Éditeur. Ce projet a d'ailleurs remporté le prix événement coup de cœur culturel à Rimouski lors de sa tournée à l'Est du Québec en 2022. Et présentement, Steven joue dans Gas Bar Blues, une pièce en tournée à travers le Québec. Il y aurait des milliers d'autres choses à dire, mais enfin, bonjour, Steven.
Bonjour à vous trois, merci de cette introduction extraordinaire.
J'ai essayé d'en dire le plus possible sans non plus prendre tout l'épisode.
Ça flatte la vanité, disons.
Et puis, d'ailleurs, vous l'entendez peut-être, là, ou peut-être pas, en fait, t'as du bon équipement chez vous, mais t'es à la maison en ce moment, Steven, pour l'émission.
Oui, ben c'est ça, là, on est en tournée là, dans le coin de Montréal, donc présentement, je le fais pas en studio avec vous, mais je vous vois par le biais d'Internet, c'est formidable aujourd'hui.
Ben oui, hein, si il y a bien une chose que la pandémie nous a appris, c'est qu'on pouvait faire bien des affaires à distance, dont de la radio. Alors aujourd'hui, au Cabaret du Crachoir, on s'intéresse aux liens entre l'écriture et la scène, donc j'ai le goût de demander aux deux invités du jour là, d'entrée de jeu, c'est quoi vos rapports respectifs avec ces deux choses-là, avec l'écriture, la scène, et comment pour vous, ça peut se lier, l'écriture et la scène? Peut-être Irma d'abord.
Oui, bien sûr. Ben, on pourrait dire que la scène, elle m'a guidée vers l'écriture, moi aussi, là, comme tu disais en introduction, Patrick. J'ai vraiment l'impression que la danse, ça m'a permis de m'apprendre ça m'a appris, en fait, à m'exprimer d'abord par mon corps, puis après ça, j'ai vraiment eu le désir de m'exprimer par la voix, en fait. Puis j'aimais aussi beaucoup le feeling de la scène, mais moi ce qui m'intéressait particulièrement, c'était tout ce qui est le processus de création, donc le processus de chorégraphique avant d'aller sur scène. Moi c'était vraiment ce qui me parlait le plus dans ma pratique. Puis c'est ça, j'ai vraiment l'impression que l'écriture, ça me permet d'être dans un processus de création qui est plus constant, je dirais.
Oui, effectivement, parce que je pense qu'on va en parler, mais la scène, il y a un côté matériel hein, qui, on peut à peu près écrire n'importe quand et n'importe où dans la vie, pratiquement, alors qu'on ne peut pas nécessairement danser où on veut. Et quand, bon, on peut, mais enfin! Et de ton côté, Steven?
Ben, un peu comme Irma, la scène m'a ramené vers l'écriture. C'est-à-dire que moi, j'avais commencé par l'écriture. Je dis que j'ai un baccalauréat en littérature, en études littéraires. C'est pas vrai, il me manque deux cours. On va faire tout comme. Disons que j'ai mis fin à mon bac parce que au niveau, je sais pas, au niveau de l'université, on dirait que j'étais encore trop jeune dans ma tête, puis à un moment donné, ça devient, tu sais, être très scolaire dans les dissertations, dans le nombre de lectures. À un moment donné, ça m'a comme un peu détaché de l'écriture. J'ai voulu mettre un frein à tout ça, puis j'ai commencé à faire beaucoup d'impro, puis de théâtre, puis finalement, j'ai fini par quitter mon bac pour m'en aller vers la scène, pour être comédien. Et dans le cadre de ma pratique, ben j'ai eu des commandes, là, j'ai dû écrire une pièce, donc ça m'a ramené vers l'écriture. Fait que j'ai vraiment fait comme une espèce de boucle circulaire. Puis tu sais, l'écriture, je sais pas si je trouve ça terrifiant, parce que souvent on a une espèce de conception que c'est plutôt la scène qui est terrifiante, parce que là on se livre devant les gens, mais l'écriture c'est comme quelque chose d'extrêmement intime, qu'on met sur papier, qui est là à l'infini, qu'on livre au spectateur, ben, du moins qu'on livre au lecteur, et après ça, ça nous appartient plus. T'sais, une fois que c'est envoyé dans le monde, ben, c'est canné, et c'est le lecteur qui fait sa propre idée de notre petit bout intime qu'on a livré. Tandis que l'écriture pour la scène, ben c'est pas une finalité, parce que quand on écrit pour la scène, ensuite, dans les répétitions, on change l'écriture, on peut même changer après une représentation, on dit, ah, ça se dirait mieux comme ça. Tu sais, il y a quelque chose qui est toujours en mouvement, puis ça, c'est juste un élément parmi tant d'autres, parmi la mise en scène, le jeu, la musique, parmi le spectacle, finalement. C'est un des éléments, même si c'est l'élément central quand même, l'écriture, mais c'est un des éléments parmi tant d'autres. Au contraire, ça met moins de pression. Je trouve ça moins terrifiant, finalement, d'écrire pour la scène, puis je suis bien content de recommencer à écrire.
Eh bien, ça met très bien la table, tout comme l'extrait de Birdman. Je pense que tout ça va pouvoir nourrir nos réflexions aujourd'hui. Mais comme vous le savez, au Cabaret du Crachoir, on aime réfléchir à partir des textes de nos invités. On va commencer avec celui d'Irma, qui est une enquête sur ce que la danse représente pour toi. Et tu voulais peut-être nous faire une petite mise en contexte là, avant la lecture de ton texte. Irma, je te laisse aller.
Oui, bien, juste avant de lire mon texte, j'aimerais ça préciser qu'il décrit une performance que je me suis imposée pour reconnecter avec la danse. Donc, ça a pris la forme d'un parcours à partir de mon premier appartement dans lequel j'ai résidé les 3 années que j'ai étudié en danse, me rendre jusqu'à l'École de danse de Québec, puis terminer mon parcours à la maison pour la danse, pour y suivre une classe.
Ben parfait, on écoute cette enquête. On va te suivre là, dans ton trajet.
Merci. Deux graffitis avaient été peints sur les cadres entourant la porte de mon ancien appartement. Je suis entrée dans le portique, la boîte aux lettres était vide. Ce retour au 206 rue Saint-Vallier-Ouest marquait le point de départ de ma performance. J'ai entrepris le trajet que j'empruntais tous les jours lorsque j'étudiais en danse, me demandant ce que cela me ferait de reprendre la routine d'avant, de revenir au lieu dans lequel je n'avais pas remis les pieds depuis 3 ans, sans savoir qui je croiserais, quelles émotions allaient surgir. Lors de ma marche vers l'école, j'ai senti la lourdeur de ma nuque. Je n'ai pas cherché à ramener mon cou vers l'arrière, tel qu'on m'incitait à le faire autrefois. Cela m'a pris plusieurs mois avant de me défaire de cette exigence d'aligner les parties de mon corps, au studio comme au quotidien. Aujourd'hui, je ne recherche plus cet idéal de perfection. Je dois toutefois composer avec mes blessures et cette surconscience que j'ai maintenant de mon corps dans l'espace, qui m'amène, trop souvent, à suranalyser les mouvements que j'effectue. Sur la rue d'Argenson, j'ai une pensée pour le chat que j'observais derrière je ne sais plus quelle fenêtre auparavant. Un peu plus loin, rue Saint-François, j'étais étonnée d'avoir oublié la présence du moulin dont les murs sont tapissés du signe forté. J'avais pourtant passé une grande partie de mon enfance à jouer du piano. Au coin de la ruelle, mon stress a pris davantage d'expansion, comme si les signes musicaux l'avaient annoncé. J'étais presque arrivée. J'ai salué la dame à l'entrée de l'école en faisant comme si je savais où j'allais, tel que j'en avais l'habitude, malgré le serrement dans mon ventre. J'ai déposé mes souliers et mon sentiment d'impostrice dans le gigantesque porte-chaussures. Le contact de mes bas sur le carrelage au motif étoilé m'a fait un drôle d'effet. C'était comme s'il m'avait permis de reconnecter avec l'endroit. Je crois que c'est parce que les danseurs et danseuses accordent une grande importance à l'appui au sol, au fait de s'enraciner au plancher. J'ai ensuite eu l'impression de reconnaître l'odeur des lieux. Les effluves de sueur se mêlaient à celles des produits ménagers. J'ai remarqué que le nom des étudiants figurait maintenant sur les casiers. Dans l'escalier majestueux, j'ai eu envie de prendre en photo ces massives rampes en bois, ainsi que la toile en haut de ces marches représentant le portrait d'une danseuse. Ses bras semblaient s'étendre vers l'infini. C'était la beauté du lieu qui m'avait attirée quand j'avais été étudiante d'un jour. La lumière qui traverse ses fenêtres, ses poutres immenses, son architecture de style beaux-arts. Les rires sonores des étudiantes m'ont soudain prise par surprise. Ils m'ont évoqué, d'un coup, les nombreux fous rires que j'avais eus avec mon groupe. Ma mémoire me rejouait pourtant depuis des années les pleurs de mes amis dans le vestiaire dû à l'intensité des situations que nous vivions. Les longues heures d'entraînement, la répétition des séquences chorégraphiques, la fatigue continuelle. Elles devaient chercher à me protéger, à me conforter dans ma décision de quitter le programme. Au deuxième étage, j'ai regardé à travers la porte entrouverte du studio d'été. Le musicien S, qui allait remplir sa gourde, m'a aperçue. Son sourire débordait, comme toujours. Après un câlin réconfortant, il m'a dit « Ça fait longtemps ». J'ai répondu « 3 ans ». Je lui ai appris que je venais d'entamer ma maîtrise en littérature et il a déclamé « T'es un artiste, toi ». Cette phrase était peut-être ce que j'étais venue chercher. Après un moment de silence, il a ajouté « Tu peux revenir quand tu veux ». J'ai pensé lui répondre que c'était comme une famille ici, mais j'ai plutôt employé le terme « maison ». En allant vers la gauche, j'ai osé jeter un coup d'œil vers le studio JPP. J'ai entrevu la seule enseignante que je n'avais pas appréciée durant mon parcours, ainsi que celle qui tenait à ce que je reste, mais qui voyait dans mon départ une faiblesse. Je suis partie expressément, sans me faire voir, avec quelques photos et des larmes aux yeux. En continuant mon chemin sur la rue Saint-Joseph, j'ai entendu une femme affirmer d'un rire rauque « On rentre dans la stupidité, stupéfiant et stupide ». Et je trouvais que cette phrase étrange résumait particulièrement bien ma journée. Je l'ai notée. Mon arrivée à la maison pour la danse m'a apaisée. C'était probablement dû au fait que j'avais opéré une désensibilisation graduelle de cet endroit. J'y étais retournée 2 fois depuis que j'avais fondu en larmes devant l'entrée du bâtiment 2 ans plus tôt. Cette journée-là, mon copain R et moi allions manger sur la rue Saint-Joseph et il s'était stationné en face de l'édifice qui se trouve sur la rue du Roi. Réalisant où nous étions et apercevant J, une enseignante que j'appréciais beaucoup à travers la baie vitrée, j'avais réclamé à R de partir avant qu'il ne me voie. Depuis, j'étais retournée pour la création d'une vidéo avec des amis danseurs et danseuses et j'avais été bénévole pour un festival en art littéraire qui avait eu lieu à cet endroit. Ce souvenir m'est cher puisqu'il m'avait permis de croiser mes passions des deux disciplines pour la première fois. On m'avait dit que j'avais l'air à ma place. En attendant la classe de danse que je m'imposais de suivre, une chorégraphe m'a regardée 2 fois sans venir me parler. J'ai trouvé cela cocasse de la croiser puisqu'elle avait recueilli des témoignages de danseurs et danseuses ayant tourné le dos au milieu professionnel pour en faire un spectacle, un abécédaire et un balado. Quand j'avais écouté son balado, je ne comprenais pas pourquoi elle s'inspirait d'histoires ayant certaines similitudes avec la mienne sans avoir vécu cette rupture elle-même. Il est indiqué sur le site de sa compagnie que les témoignages ont nourri l'équipe artistique et que ce qui ressortait avant tout de l'ensemble des entrevues était une célébration de la danse. Je n'ai que l'image des parties de mon corps en confetti puis offertes en repas. La danse n'est pas toujours une célébration. Recueillir seulement des témoignages de danseurs et danseuses ayant passé plusieurs années sur scène est un choix qui écarte les voix de celles-eux, nombreuses qui n'ont jamais complété le programme. Plus le temps passait, plus j'étais tourmentée par le fait de suivre une classe de danse contemporaine à nouveau. Cette étape de la performance allait certainement modifier mon réel. Je m'étais rendue au lieu où tout avait commencé et je me devais de reprendre contact avec ce studio. J'y serais quotidiennement aujourd'hui si j'avais décidé de finir l'année qu'il me restait pour obtenir mon diplôme ou si l'envie de me former continuait d'exister. En entrant dans la pièce, j'ai ressenti le besoin de mentionner au chorégraphe que j'avais effectué 3 ans à l'EDQ et que sa classe marquait un retour 3 ans plus tard. Il m'a dit que ce ne serait pas un cours classique, qu'on s'engagerait plutôt dans son processus de création. J'ai répondu « Je sais, c'est ce qui m'intéresse ». Ma présence semblait susciter la surprise et la curiosité des danseuses me reconnaissant lorsqu'elles entraient dans la pièce. Cette classe avait beau être ouverte au grand public, j'étais seule parmi les professionnels. Le cours a brusquement commencé par l'apprentissage d'exercices de coordination qui se refusaient en moi. J'étais en équipe avec 2 interprètes qui avaient déjà pratiqué cette séquence pendant la semaine, le stage s'effectuant sur plusieurs jours. Nous étions les premières à présenter cette coordination devant le groupe, tout en parlant d'une recette de pudding chômeur que je n'ai jamais cuisinée. Je trouvais l'exercice totalement ridicule et la honte m'a envahie, puisque je ne maîtrisais pas la séquence. Je sentais mon visage crier mon désarroi et j'ai regretté d'être là. Comment recouvrer l'état de danse que j'avais autrefois en commençant par cette mise à nu? Je ne savais plus comment me mettre en scène et je n'en avais aucune envie. Je me suis sentie livrée à leur regard, vulnérable. Les autres exercices se sont bien passés ensuite. Je retrouvais ma concentration et ma capacité d'interprétation, puis je parvenais à me laisser aller dans la recherche du mouvement avec mon corps rouillé. Pendant l'un des exercices, qui nécessitait toujours l'usage de la parole, une danseuse m'a invitée à partager mon histoire devant les interprètes. J'ai pensé, cette histoire sera écrite. J'ai préféré parler du générique de la série Albator que mon père me chantait enfant. En quittant les lieux, j'ai recroisé le dernier chorégraphe avec lequel j'avais travaillé 3 ans plus tôt. Il attendait une voiture qui le ramènerait vers l'aéroport. Ce drôle de hasard m'a donné l'impression qu'une boucle se refermait. Tandis que je me dirigeais vers le café Péco, une danseuse m'a questionnée. J'ai décidé de lui dévoiler ma performance, celle-ci étant terminée. Je lui ai parlé de cette blessure que j'avais pris 3 ans à nommer. Elle m'a dit qu'elle-même, en tant que danseuse, vivait des deuils au quotidien. J'ai trouvé sa réflexion très juste. Elle a ajouté qu'elle et probablement les autres participantes aimeraient lire mon texte. J'avais l'impression de m'être déjà tellement livrée.
C'était donc le texte d'Irma, son enquête sur ce que la danse représente pour elle. Merci beaucoup pour ta lecture, Irma. Et allons voir immédiatement qu'est-ce que notre comédien, Steven, en a pensé.
Eh bien, à chaud comme ça, mon Dieu, c'est très touchant. Je suis vraiment ému. On dirait que là, je viens de... Tu parles d'une boucle qui se referme à la fin de ton texte, puis on dirait que moi, je viens de voir une ouverture. Tu sais, quelqu'un qui a un rapport au corps comme ça, qui s'interroge au rapport au corps comme ça, et qui nous livre par la parole, par l'écriture, tu sais, cette chose-là. On dirait que c'est comme une ouverture pour moi. Puis tu nous disais aussi, de manière... en début d'émission, là, au début, juste avant que ça commence, là, à onde, tu nous disais que c'était la première fois que tu allais lire un texte comme ça en public. C'est la première fois que tu fais une émission de radio comme ça. Il y a quelque chose de vraiment magnifique puis super touchant d'entendre ça puis de voir l'assurance aussi avec laquelle t'as lu le texte. T'sais. Juste ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup touché. Puis c'est très émouvant parce que c'est l'histoire au final d'un deuil, puis pas n'importe quel deuil, c'est un deuil pas quelque chose de quelque chose qui est mort, mais plutôt un deuil de quelque chose qui est encore présent, qui est encore vivant. Puis ça, je trouve que c'est les deuils les plus difficiles à faire. Je pense que t'as vraiment mis les mots sur ce sentiment-là, tu sais, qui t'habite. Puis c'est comme n'importe quel deuil, c'est des vagues, c'est des cycles, puis on espère que les vagues s'estompent, tu sais, plus le temps avance. Vraiment, c'est magnifique. Merci, Irma.
Ben, merci pour ton beau commentaire, Steven. C'est vrai que ben, le fait de retourner au lieu, c'est, je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis de boucler cette boucle-là, mais une boucle qui est loin, qui n'est pas terminée, parce que la danse, elle m'habite encore au quotidien, là, que ce soit pour mon mémoire de maîtrise ou dans un livre prochain que j'aimerais ça écrire. Donc, puis je dirais qu'elle m'accompagne même comme... elle m'habite encore, là, donc voilà. Mm-hmm.
Absolument, c'est très beau ce que tu viens de dire, Steven, par rapport à cette ouverture-là. Puis moi, Irma, tu sais, j'avais déjà lu une première version de ce texte il y a longtemps, fait que je suis contente de voir son évolution, comment il s'est transformé, c'est absolument magnifique, je l'aime toujours autant. Tu sais, j'aime le côté performatif de l'écriture, la description de ta démarche, c'est un texte très immersif dans lequel on n'a pas de mal à suivre ton parcours. Et j'aime comment on est toujours à mi-chemin, un peu entre la... un peu, je sais pas, pas une rancœur, mais une tristesse, une tendresse à l'écart de la danse, puis que c'est pas, ça reste pas juste une expérience individuelle, mais on sent que tu tends vers les autres, que c'est pas juste à propos de toi, mais que parfois t'as un ton plus critique, moins ben, très introspectif, mais plus critique par rapport à la danse. Puis tu nommes des ruptures rencontrées qui touchent pas juste toi, mais les autres aussi, danseurs et danseuses. Et il y a un passage que j'aime beaucoup quand tu parles du croisement des passions. Tu sais, tu dis ce souvenir, quand tu as travaillé, tu étais bénévole pour un festival en arts littéraires, tu dis que ce souvenir t'est cher parce qu'il t'a permis de croiser tes passions des deux disciplines pour la première fois. Puis là, tu dis, on m'avait dit que j'avais l'air à ma place. Et à un autre moment, tu dis que cette histoire-là sera écrite. Et je trouve que à ce moment-là, dans le cadre du festival, il y avait ce croisement-là, mais dans ton écriture, il y a ce croisement-là aussi. Et là, la question que je te pose, c'est, je me demandais si, à long terme, si tu envisageais ce croisement-là des disciplines, mais disons hors du texte littéraire, encore une fois, peut-être sur scène, avec ton corps et les mots en action.
Oui, ben j'ai toujours eu la petite idée de peut-être créer une performance là, qui mariait, qui marierait danse et écriture, en fait. Donc, quand je vais être prête, je pense que je vois vraiment ça comme trouver ma voie dans l'écriture d'abord, tu sais, peut-être publier un livre, puis après ça, peut-être partir de cette matière-là pour créer une performance avec mes amis danseurs ou danseuses.
Fait que l'écriture, ça va précéder peut-être ce projet-là. Tu veux te lancer, mettons, plus dans l'écriture pour le moment, c'est ça. Puis après, voir où ça t'amène. Enfin, c'est super. Merci, Romain.
Ouais. Ouais, c'est intéressant. Merci à toi. J'ai une idée en ce moment qui est très peu articulée, donc je vais partir d'avance. Mais parce que, disons-le, il faut quand même le souligner, on a fait le séminaire de maîtrise, là, Irma, Ève et moi, ensemble. Donc, on a préparé notre projet, on a vu notre projet de mémoire évoluer. Et donc, je t'ai vu beaucoup parler de la mise en texte du corps, comme je le présentais tout à l'heure. Et dans ton texte, j'ai repéré les mots, tu sais, mise en scène, et cette idée de mise en, donc, tu sais, de vouloir mettre le corps en texte, je trouve qu'il y a un beau lien avec mettre en scène un texte, une espèce de renversement où cette idée de croisement et de mélange, de métissage est très présent. D'ailleurs, dans même ce que tu étudies le métissage, je pense, te fascine. Le métissage des genres, métissage des disciplines.
Oui, ben, je m'intéresse beaucoup à l'hybridation des genres aussi là, dans mon mémoire. Et puis aussi, ouais, en fait, mon mémoire va parler du fait que j'avais ressenti qu'il y avait certains textes littéraires où je sentais plus une présence du corporel, là, une présence du corps dans l'écriture. Et donc, c'est ce que je vais analyser, là, la représentation des corps dans la littérature québécoise.
Oui, puis ben, peut-être aussi ce que permet cette imbrication des genres, c'est une grande complexité aussi. Puis moi, ben, Ève, tu as commencé sur ce terrain-là, mais c'est ce qui m'a fasciné de ton texte, c'est une capacité à rendre compte de plusieurs facettes de ton propre rapport au monde de la danse. Donc, tu sombres pas dans une pure critique. Il y a une espèce de tension entre ce que ce monde t'a apporté de bien et ses côtés plus sombres. On comprend bien la volonté là, de montrer, bon, j'ai utilisé une expression assez convenue, mais un autre côté de la médaille dans le passage où tu reviens sur le balado et tu dis « Je n'ai que l'image des parties de mon corps en confetti puis offerte en repas. La danse n'est pas toujours une célébration. Recueillir seulement des témoignages de danseurs, danseuses ayant passé plusieurs années sur scène est un choix qui écarte les voix de celles, nombreux, nombreuses, qui n'ont jamais complété le programme. » Et je trouve que ce regard nuancé est très bien maîtrisé dans ton texte. Donc, j'avais le goût de voir comment tu parviens à porter un regard qui justement, ne tombe pas d'un côté ou de l'autre, là, d'une idéalisation ou une critique pure, sur quelque chose avec lequel tu as rompu, finalement, ta pratique de la danse.
Bien, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir rompu avec la danse parce que c'est quelque chose qui m'habite encore vraiment beaucoup. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si elle était imprégnée dans ma peau, que c'était comme une partie de moi, là, ou une façon. Elle m'a mis vraiment une façon différente de voir le monde, j'ai l'impression. Puis, pour la question de la nuance, je pense que le fait de l'avoir vécu de l'intérieur et de l'extérieur, bien, maintenant d'avoir une vision plus externe, et ça me permet peut-être d'avoir plus cette nuance-là, mais j'ai pas vraiment de réponse.
Ouais. Ouais, ben,
comment y parvenir, je pense que c'est ça aussi une des questions qui traverse mon texte, c'est comme comment vivre avec ces deux choses qui sont opposées là.
Ouais, puis ben, j'en parlais en lien avec le mélange des genres et tout ça, parce que je pense que le fait qu'il y ait une espèce de densité à l'intérieur même de ce que représente l'objet littéraire que tu nous proposes, c'est-à-dire c'est à la fois une performance, une réflexion, une narration, il y a tellement d'éléments qui permettent de, tu sais, c'est pas un pamphlet contre la danse, là, mettons, contre ce que la danse peut avoir de négatif. Le temps file, je dis ça à chaque épisode. J'avais tellement préparé de questions sur ton texte. Mais je veux quand même, avant de passer à la pause, parler rapidement d'un sujet qui, ben, parce qu'il me touche beaucoup, puis c'est l'importance des lieux dans les arts de la scène. Parce que, bon, l'écriture, c'est pas que l'écriture a pas de lieu. Puis là, je suis en train de lire en ce moment Une chambre à soi de Virginia Woolf, dont la thèse est ce que les femmes ont besoin pour parvenir à écrire des fictions, c'est de l'argent et une chambre à soi, une chambre à elle. Mais dans l'écriture, je pense que c'est des lieux qui sont plus individualisés, plus personnels, alors que quand on fait de la danse, du théâtre, de l'humour, de l'improvisation, je pense que tout le monde ici, on a tous eu une pratique scénique à un moment ou un autre dans notre vie, on remarque que le lieu est collectif, le lieu est nécessaire à la pratique de notre art. Alors, je me demandais, puis c'est une question ouverte à tous, c'est quelle relation entretenez-vous avec vos lieux d'expression artistique? Est-ce que c'est la même s'il s'agit, par exemple, de théâtre ou de danse versus l'écriture? C'est sûr, je débuterai peut-être avec toi, Irma, parce que c'est ton texte.
Parfait. Bien, j'ai vraiment l'impression que j'avais peut-être une relation plus forte avec les lieux quand j'étudiais en danse. Parce que juste par le fait de partager un espace avec d'autres personnes, d'entrer en contact avec eux, il y a tout un ajustement aussi là, de son corps en l'espace avec les autres personnes. Alors que quand j'écris, j'ai l'impression que je pense peut-être plus à mes expériences, à mes souvenirs, que de l'espace dans lequel je me retrouve, même si il y a une influence sur l'écriture. Je vois peut-être le lien un peu moins directement, oui.
De son côté, Steven?
Ben, moi, j'ai trouvé ça magnifique, la façon que tu dépeins la beauté des lieux, parce que, ben, regarde, je vais faire un mini pamphlet, là. Moi, je trouve que dans notre société, on a évincé la religion, ce qui, bon, là, je veux pas porter de jugement, mais à mon opinion, est bien correct, mais on a évincé en même temps le sacré puis le sens du rituel, puis ça, c'est franchement dommage. Puis la dernière trace de ça qui reste, c'est les lieux. C'est-à-dire, quand on rentre dans une église, qu'on soit religieux ou pas, il y a quelque chose qui nous remplit, il y a quelque chose d'absolument incroyable, le sentiment quand on rentre dans une église. La même chose quand on rentre dans une salle de théâtre, la même chose quand on rentre dans une école comme ça avec une vocation, la même chose quand on rentre même dans un aréna ou un stade, mais c'est tout des lieux de rassemblement. Puis ça c'est capoté, ce côté sacré-là, puis il faut pas comme oublier ce côté de rassemblement puis de rituel-là. Je trouve que on a tendance des fois à tout évincer en même temps qu'on décide d'évincer quelque chose dans notre société. Puis le sens du sacré, ben on dirait qu'on le ressent dans ton texte. Même ça a l'air péjoratif parce que ça te fait sentir comme un sentiment qui est plus doux amer, mais quand même tu le rends bien. Tu dans juste rentrer dans une école, voir ces escaliers majestueux là. Tu sais, je connais bien cette école là parce qu'il y a beaucoup de répétitions de théâtre qui se font là. Puis il y a quelque chose qui nous habite quand on rentre dans ces lieux là, qu'ils soient pleins ou vides. Il y a quelque chose de vraiment fort qui s'opère en nous. Puis ça, je trouve ça vraiment chouette comment tu l'as amené dans le texte.
Oui, ben j'ai lu récemment Les Chants du Mime de Gabriel Jason Dulude, qui parle également de son école de mime, en fait. Puis, il y avait aussi beaucoup ce caractère sacré-là, relié à l'école. C'est tellement un lieu où tu vis tu vis tellement d'émotions avec d'autres gens. Puis, je suis vraiment d'accord avec toi que ça manque ce caractère sacré-là, peut-être, dans notre société.
Ouais, sans être ésotérique, on dirait que les lieux se chargent de ça. On peut rentrer dans tous ces lieux-là, on pourrait rentrer seul, les lumières un peu fermées le soir, puis on ressentirait une émotion très forte. Il y a quelque chose de l'ordre de la vibration même dans ces lieux-là, puis ça, je trouve ça incroyable.
C'est particulièrement intéressant que ce propos vienne d'un comédien, parce que j'écoutais récemment Réfléchir à voix haute avec Jean-Philippe Plot, et le co-animateur était Alexis Martin, il parlait des rituels, et je pense que les comédiens comédien, vous êtes plus appelé dans votre pratique à maintenir une forme de rituel ou de, du moins de pratique ritualisée. Il y a mm-hmm. quelque chose de l'ordre du rituel avec, avec la représentation théâtrale. Mm-hmm. Enfin, c'est des réflexions qu'on va pouvoir poursuivre justement à partir de, d'une pièce de théâtre après la pause, parce qu'on va entendre des extraits de la pièce L'Ineffaçable. C'est un long titre.
C'est un long titre. Hein? L'incroyable et ineffaçable histoire de Sainte Dignité de l'avenir. Je vais donner un petit coup de pouce.
Merci beaucoup. Alors, on écoute ça après la pause.
La semaine prochaine, c'est good. Désolé, j'ai pas d'expact depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Bonsoir, chérie.
Bonsoir.
J'arrive du travail. Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non.
Ah, chérie, j'arrive. Ce qu'on sort pour, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh ben! Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Shiz a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'Allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Informations, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'Allongée, seulement sur les ondes de Shiz 94.3.
Le cabaret du crachoir. Shiz 94.3.
Bon, pour parler des opérations Dignité, il faut parler d'abord de plein d'autres affaires.
Bon, on se souvient de la crise économique de 1929?
Non, non, on vous demande pas si vous étiez là.
Vous vous souvenez de ce que l'État et l'Église ont proposé aux populations urbaines suite au crash boursier?
Allez vivre en campagne, puis loin à part de ça. Allez donc ouvrir une coupe de paroisse bien profonde à terre.
On fait un petit saut dans le temps, 30 années passent et hop, c'est la révolution!
Tranquille.
C'est la révolution tranquille. Mais c'est la révolution quand même!
La modernisation de l'État québécois.
Maître chez nous! L'influence de l'Église chute considérablement.
Au profit d'une plus grande emprise de l'État. Un E accent aigu en remplace un autre.
Nous voilà maintenant au milieu des années 60. La colonisation des années 30 a porté fruit. Beaucoup de gens ont effectivement migré vers les régions rurales pour y défricher la terre et s'y établir.
C'est pas la vie la plus douillette.
On se débrouille.
On fait comme on peut.
Mais il faut avouer que le développement est assez frileux.
Des routes sont construites au gré des élections.
Peu d'argent est injecté jusque dans ces régions.
Mais reste que tous ces villages dans les terres rassemblent maintenant plusieurs milliers de personnes.
Plusieurs milliers de colons.
Qui exploitent les terres.
Terres qui, on se souvient, ne se laissent pas facilement exploiter.
Ces villages, maintenant, sont tous organisés autour d'une église.
D'où les paroisses.
C'est pour ça qu'il y a autant de saintes et de saints dans notre toponymie québécoise.
C'était donc un extrait de la pièce « L'incroyable et ineffaçable histoire de Sainte Dignité de l'avenir ». C'est ça que ça permet, une pause, d'être capable de dire le nom de cette pièce qui était enregistrée, là, l'extrait, dans le cadre de l'émission radio-canadienne Info Réveil. Nous entendions les voix des comédiens et co-créateurs de cette pièce, Odile Gagné-Roy, et notre invité, ben, l'un de nos invités du jour, Steven Lipotvin. C'est comme, on dédouble ta voix aujourd'hui, Steven. Qu'est-ce que c'est exactement l'incroyable et ineffaçable histoire de Sainte Dignité de l'avenir et qu'est-ce qu'on entendait précisément là?
Mm-hmm. Ben, c'est une pièce entre documentaire et fiction qui commémore les 50 ans des opérations Dignité. Les opérations Dignité, c'est quoi? C'est un mouvement rural qu'il y a eu dans l'Est du Québec, c'est-à-dire au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie dans les années 70. Et c'est quelque chose qui est en train de tomber dans l'oubli au niveau de notre histoire au Québec. Dans les années 70, grosso modo, le gouvernement a mis en place un projet pour relocaliser des villages. Donc, je dirais même délocaliser, c'est-à-dire que tous les villages dans les terres, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, là, on parle au-dessus de 140 villages, devaient être délocalisés pour être amener les gens dans des HLM sur le bord du fleuve, c'est-à-dire à Rivière-du-Loup, Rimouski, Matane, Gaspé, Saint-Anne-des-Monts. Les gens se sont soulevés à la suite de 11 villages qui ont été fermés en Gaspésie. Puis je dis 11, c'est comme le chiffre, disons, radio-canadien. Là, c'est le chiffre officiel, mais en réalité, on parlerait peut-être plus de 40 en dommages collatéraux. Donc, plus de 20 000 personnes ont été délocalisées pour être amenées dans des HLM. C'est une histoire un peu épouvantable de notre histoire au Québec. Les gens ont quand même honte de ça, autant du côté du gouvernement, les fonctionnaires qui étaient là à l'époque, que les gens qui ont été délocalisés. Et là, voilà, l'année passée, ça faisait 50 ans, donc on a créé une pièce avec le Théâtre du Bic, le Théâtre Les gens d'en bas, pour partir faire une tournée à travers toutes les églises de l'Est du Québec.
Donc, pour toi, c'était à la fois là, une expérience théâtrale, de jeu, mais également d'écriture, si je comprends bien, et même de recherche. Quand même un grand projet qui a été très, très bien accueilli, de ce que je comprends, de ce que j'ai pu voir sur Internet.
Oui, c'est sûr que c'est un bébé qu'on a porté, Odile et moi. C'est-à-dire qu'on pendant 9 mois, on a fait de la recherche, puis après ça, pendant 2 mois, on s'est promené dans une grosse tournée. Et c'est pas terminé. Je vais pas lancer de scoop tout de suite, mais on va reprendre la pièce à plein d'endroits dans les années qui vont suivre. Ça a été très prenant, disons là. On a mis beaucoup de choses de côté dans nos vies pour pouvoir faire la recherche puis honorer la mémoire de ces gens-là qui sont soit décédés, soit encore en vie.
Très beau défi d'écriture bien réalisé. Aujourd'hui, au Cabaret du Crachoir, on parle de l'écriture, on parle de la scène. Donc, l'écriture scénique, quoi de plus directement associé à notre thème. Mm-hmm. Avant la pause, on écoutait Irma qui nous a livré son enquête sur ce que la danse représentait pour elle. Donc, on avait plutôt là, une écriture qui s'interrogeait sur une pratique scénique. On s'apprête maintenant à écouter un autre extrait de l'incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité de l'avenir, qui est en fait une chanson qui s'intitule « Fin août ». Il faut le dire, là, dans la pièce, elle est plutôt livrée en performance. Aujourd'hui, Steven, t'as accepté de l'enregistrer en version plus studio acoustique. Donc, c'est toi qui l'interprète, bien sûr. Alors, on écoute ça. C'est un moment dans la pièce. Est-ce que tu voulais faire une mise en contexte ou on laisse les auditeurs entrer là-dedans?
C'est simplement, je dirais la mise en contexte, c'est vraiment quand les fonctionnaires sont débarqués pour annoncer aux gens qu'ils allaient être relocalisés. Donc, c'est cette histoire-là par le biais des yeux d'un petit garçon qui voit sa famille être relocalisée.
D'accord, donc on écoute ça. Fin août.
Parce qu'un jour, une cravate est débarquée. Puis avec mes parents, assez mis à jaser, ils ont parlé de chèques, de cabanon, de frigo. Ça a l'air qu'on va déménager proche du bord de l'eau. On est bien heureux, mais on est pauvre, c'est effrayant. Fallait bien choisir entre le fou et l'argent. Ils ont dit pas rentable économiquement. Non, tout ce qu'on a, c'est de la place pis du temps. Ma mère dit adieu à son beau potager. Mais imagine tous les légumes qu'on va s'acheter. Mon père, simple paysan, va mourir comme un roi. Parce qu'un grand trône de lazy boy l'attend déjà là-bas. Du soleil, de la pluie et du vent, je suis le plus heureux des enfants. Du bonheur pour les fins pis les fous, mais ce sera encore mieux fin à août. J'ai pacté un rayon de soleil dans mes affaires pour avoir sur moi toujours un peu de lumière. J'ai capturé de l'eau du puits pour noyer ma peine si jamais je m'ennuie. J'ai embouteillé un courant d'air pour boire la plus vitaminée des bières. J'ai dit salut à mon orignal préféré et je vais revenir te voir quand je vais avoir mon permis pour chauffer. Pour une fois dans ma vie, ma maman, elle me dit de ne pas faire mon lit parce qu'on ne reviendra jamais par ici. Même pas de clé dans le verrou parce qu'on est déjà rendu la fin à ouh. La pluie du vent, j'étais le plus heureux des enfants. Là j'ai vieilli tout d'un coup, parce qu'on est passé la fin à août. Et à cette heure on écoute le temps passer à la radio en se faisant griller sur notre petit patio. Mais le soleil, la pluie, le vent, c'est pas pareil, non c'est différent. C'est quoi l'utilité d'aller dehors si de toute façon y'a rien à voir? J'ai juste hâte de pouvoir m'acheter un char, puis retourner zioter ce que j'avais chez nous, puis retourner sentir ce que j'avais chez nous, puis retourner chez nous gueuler avec les loups, puis retourner chez nous gueuler avec les loups, puis retourner chez nous gueuler avec les loups. Maudit qui était dans Maudit qui était donc belle, maudit qui était donc ben belle, la pleine lune du mois d'août.
Fin août, un extrait musical tiré de la pièce L'incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité de l'avenir. Donc, une chanson qui est coécrite par notre invité et interprétée par celui-ci, Steven Lipotvin. Merci beaucoup, Steven, d'avoir accepté là, d'enregistrer ça exclusivement pour l'épisode.
Merci. Merci beaucoup. Puis pendant que vous avez diffusé l'extrait, il faut absolument que je le nomme. Mon cellulaire a vibré. Et Véronique Marticotte, qui est en auto présentement, nous écoute live. Et Véronique Marticotte ainsi que Colette Drouin, c'est nos deux régisseuses qui nous ont suivis dans la tournée. Fait que pendant l'extrait, j'ai une conversation avec les deux régisseuses. C'est un peu surréel. Donc merci de nous écouter, Véro et Colette. Et merci encore pour la tournée.
Mais oui, c'est génial. C'est le fun d'apprendre qu'on est écoutés. Et puis, on va aller voir ce qu'en a pensé Irma, bien sûr.
Ben, j'ai vraiment aimé ton audace, là, Steven, quand j'ai su que tu allais envoyer une chanson. Là. Puis, je trouve tellement que c'est important, ce genre de projet-là qui vise à combler les vides de l'histoire. Puis, j'ai aussi eu la chance de voir Steven deux fois sur scène. Puis, ça m'impressionne tellement que les comédiens sont tellement versatiles, je trouve. T'sais, ils sont amenés à expérimenter et apprendre. Comme Steven l'a fait là, à l'aborder, il a appris à jouer de l'harmonica. Je ne me rappelle plus combien de temps avant de présenter sur scène, mais il y a vraiment... je trouve que ça montre vraiment toute sa versatilité, en fait.
Oui, bien, la scène est effectivement un lieu qui t'invite à explorer différentes zones. C'est d'ailleurs un sujet dont je voulais parler parce que cette chanson-là en tant que telle est intéressante. Surtout, bon, ça touche, moi, je suis un petit gars de région aussi, donc je suis capable de me transposer dans cette situation-là, puis ressentir là, l'émotion assez fortement. Mais dans le contexte de l'émission, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est la situation dans laquelle la chanson est interprétée dans la pièce, puis comment qu'elle a été composée aussi, parce que comme on en a parlé un peu en début d'émission, ben c'est pas pareil hein, d'écrire pour la scène que d'écrire des textes ou à demeurer sous forme textuelle. Et là, on a l'écriture de textes de chansons qui révèle aussi un caractère particulier, mais ici, c'est une chanson qui est destinée à vivre dans le cadre d'un spectacle théâtral, ce qui est assez unique. Il y a comme plein de couches qui s'accumulent. On voit d'ailleurs l'aspect narratif de la chanson. On compte une histoire. J'avais le goût de t'entendre, Steven, sur comment tu as vécu cette expérience d'écriture assez singulière.
Bien, tout d'abord, en plus de tout ça, c'est que c'est une commande. C'est-à-dire que, juste pour minimiser en contexte, le Théâtre Les Gens d'en bas a été fondé il y a 50 ans. Le Théâtre Les Gens d'en bas, qui est là, au début, avant même que ce soit le Théâtre du Bic, qui s'installe définitivement au Bic, c'était le Théâtre Les Gens d'en bas. Et Eudard Belzil, l'ancien directeur artistique du Théâtre Les Gens d'en bas, Théâtre du Bic, a créé une pièce en premier avec ses comparses sur les opérations d'unité pendant que c'était en train de se dérouler dans les villages. 50 ans plus tard, il y a une grosse boucle qui s'est bouclée, c'est-à-dire que le Théâtre du Bic est en rénovation. Eudard reçoit la commande de refaire ce spectacle-là pour les commémorations de 50 ans plus tard des opérations d'unité. Eudard se dit non. Autant qu'à ça, on va demander à des gens de la relève, donc à Odile et à moi, de recréer un spectacle. Donc, tout ça est une boucle aussi parce qu'Eudard a pris sa retraite cette année-là. Donc, au terme de la tournée, finalement. Fait que c'était quelque chose, c'était une grosse commande qui nous était confiée. Et là, quand arrive une commande comme ça, on se dit, mais comment je vais écrire ça? T'sais, on voulait pas juste que ça soit un petit spectacle hommage. Fait qu'on y a mis beaucoup du nôtre. C'est-à-dire qu'il y a une partie documentaire, mais aussi une partie vraiment qui parle de nous, Odile et Steven Lee, les comédiens, en pandémie, qui écrivent, qui doivent créer un spectacle. Donc, on y a mis vraiment beaucoup de nous là-dedans. Et pour la chanson, ben juste pour l'anecdote de création, si on veut, il y a quelques chansons dans le spectacle. C'était une commande d'Eudard. Il voulait qu'il y ait 3 chansons dans le spectacle. Fait qu'on, j'en ai composé 3. Ben, j'en ai écrit 3, mais la musique est largement inspirée de Shaky Graves, un artiste texan que j'aime vraiment beaucoup, qui joue la guitare comme ça, avec une technique un peu finger picking, là, si on veut, là, de travaille beaucoup avec les doigts pour faire des sonorités. Puis en plus, lui, il s'installe sur des valises. Il y a des valises à ses pieds. Avec des pédales. Donc, il y a une pédale qui fait sur la valise, puis ça fait comme une base de drum, puis l'autre pédale sur une tambourine. Fait qu'il fait de la percussion avec ses pieds, un peu comme un homme orchestre. Et moi, je trouvais que ça fitait dans le cadre de ce spectacle-là, parce que c'est un spectacle de délocalisation. Donc, au départ de la pièce, j'arrive avec ces valises-là sur scène, j'installe les pieds pour pouvoir moi aussi faire un homme orchestre. Fait que dans le cadre du spectacle, c'est sûr que c'est, comme tu disais, ça m'a amené vraiment à développer des skills que j'avais pas vraiment au départ. Fait que c'était un petit peu stressant d'apprendre à essayer de coordonner tout ça. Puis l'écriture, là-dedans, c'est bizarre parce que ça arrive en dernier. Tu sais, j'avais la musique, j'avais la coordination des mouvements, des percussions. Et là, faut mettre des paroles là-dessus. Fait que c'est comme... Tout devient une contrainte pour l'écriture. Puis l'écriture, après ça, il faut absolument qu'elle s'arrime à la musique. Il faut qu'il y ait le bon nombre de pieds. Il faut qu'on... c'est très percussif aussi dans le langage. C'est-à-dire que chaque sonorité, il faut qu'elle arrive au bon moment. Sinon, je serais pas capable de la chanter en faisant tout ça en même temps. Fait que ça a été un drôle de travail. Parce que j'avais l'idée dès le départ de raconter ça sous les yeux d'un petit garçon, tu sais. Puis après ça, je me suis dit, mais comment je fais pour y arriver? Puis finalement, avec les contraintes, entre guillemets, ça s'écrit tout seul. Parce que là, plus qu'on a de contraintes comme ça, plus ça enligne un peu l'écriture. Fait que c'est un peu comme ça que c'est arrivé.
Ouais, c'est quand même une expérience commune dans l'écriture de se dire que la liberté totale est finalement la pire des contraintes.
Exactement.
Oui, puis d'ailleurs, c'est l'émission tire tranquillement vers sa fin. Et c'est la fin de la saison, comme je disais, puis je voulais utiliser ce dont on parle en ce moment, donc l'écriture de chansons qui se combine ici à l'écriture scénique, pour réfléchir sur ben, ce pourquoi le cabaret du crachoir vit, c'est-à-dire pour réfléchir sur l'écriture, la création littéraire. Et ben, faut dire d'ailleurs, Steven, que toi-même, t'as écrit, t'as fait des études littéraires, t'as même publié un texte dans l'écrit primal. Mm-hmm. Bon, autour ici, on est des gens qui étudient la littérature, qui la pratiquent, donc qui ont des pratiques d'écriture également. Et ça m'a amené à réfléchir en fait sur les différents contextes dans lesquels nos textes seront appelés à vivre. Parce mm-hmm. que ce que j'aime aussi de cette émission-là, bon, je l'aime parce que c'est moi qui l'ai mis sur pied, donc nécessairement, j'aime certains aspects, mais j'aime l'idée de faire vivre le texte à l'oral, en audio, finalement, pour que les gens aient un différent rapport au texte. On peut l'écouter dans la voiture, on peut l'écouter en faisant son jogging, en faisant la vaisselle. Mm-hmm. C'est un autre rapport que celui de s'asseoir et de lire un livre. Et je demande, c'est une question pour tout le monde, pour clôturer cette saison. Comment le contexte dans lequel le texte va être appelé à vivre éventuellement change votre propre rapport à l'écriture? D'abord, Eve, peut-être?
Oui. Tu m'as amené à réfléchir à ça parce que moi, dans mon cas, j'ai moins une pratique scénique. J'essaye d'apprivoiser un peu la lecture de textes en public devant des gens, mais je vois surtout mes textes vivre en revue et ça veut dire que je sais qu'un lectorat va recevoir ces textes-là puis qu'ils seront, c'est ça, accessibles au public. Mais puisque j'ai pas, mettons, ce public-là qui va le recevoir, puisque je l'ai pas dans ma face, par exemple, en train de le lire, puis qui est pas vraiment là en train de m'écouter lire mes textes, par exemple, on dirait que je les considère un peu moins dans mon processus créatif. On dirait que, vu que j'écris beaucoup sur moi-même et sur les autres, j'ai surtout une pensée pour ceux et celles sur qui j'écris, mais j'ai moins cette pensée-là pour les personnes qui vont recevoir mon texte. Je sais pas si ça sonne un peu égocentrique, là, mais c'est juste que je repense à ce que Steven disait au début par rapport à l'écriture et le lieu, qui est un lieu plus individuel, puis c'est vraiment intime, puis je sens que je suis plus renfermée sur moi. Alors, c'est sûr que ouais, le contexte influence beaucoup, fait que c'est ça, si je pense, mettons, au public, c'est moins un souci fondamental là, dans le cadre de l'écriture textuelle.
Oui, ben, je pense que ça nous ramène sur l'idée des chemins aussi. Qu'est-ce qui nous a mené à l'écriture? Au début, il y avait Irma qui disait que c'était par la danse. Moi, dans mon texte d'introduction, je disais que c'est par la scène. Steven, toi, il y a comme eu un chemin de commencer par la littérature, passer par la scène, revenir à l'écriture. Et le chemin, si je m'appuie sur mon parcours personnel, je pense que le fait que tout ça ait commencé sur scène avec un public devant moi fait que même aujourd'hui, je suis incapable d'écrire en faisant fi de du fait que ça va exister dans ça va exister pour quelqu'un d'autre que moi-même. Et ouais, ça change notre rapport. Puis justement, nos deux invités du jour, je vous laisserai terminer cette réflexion. Peut-être d'abord Irma on va aller avec Steven.
Ouais, ben tu sais, c'est drôle parce que, comme tu disais, tu sais, au début, j'écrivais des trucs plus intimes, puis là, je me suis tanné à cause de mon parcours uniquement scolaire. Puis quand la scène me fait revenir à l'écriture, ben ça a changé complètement mon approche parce que pour un comédien, ben les mots, c'est la partition. Fait que c'est un drôle de rapport avec les mots, tu sais, c'est pas une finalité en soi, c'est vraiment la partition, comme une partition de musique pour un musicien. Puis de revenir à l'écriture, après avoir constaté que les mots étaient la partition, ben là, j'écris, que ce soit pour les chansons ou que pour la scène, ben comme tu dis, Patrick, tu sais, j'écris déjà avec quelque chose en tête, déjà, je sais pas si c'est une forme de contrôle à quelque part, parce que tu contrôles un peu le produit fini, tu penses déjà comment ça va être reçu par le spectateur. Mais
Steven, il y a comme un petit problème en ce moment de pub qu'on vient tout juste de régler.
Pas de problème.
Ce sera pas bien long. Oui, on a réglé le problème de pub qui ne sont pas partis au bon moment. il fallait que ça soit le dernier épisode de la saison, pas une erreur technique, et puis là, tout d'un coup, j'ai accroché un piton. Enfin, tu peux continuer ce que tu disais.
Non, mais je dis juste, c'est ça que c'est, je sais pas, c'est par contrôle peut-être que, tu sais, j'essaie de voir ça comme une partition puis pas une finalité. On dirait qu'on veut contrôler la réception des fois du spectateur ou du lecteur, tu sais. Puis j'ai pas de punch final là-dessus, mais je me dis que c'est ça. Pour moi, c'est vraiment une partition, les mots, puis ça va comme dans les deux sens, autant de les prononcer que de les écrire, tu sais.
Oui, ben je pense que ça vient rejoindre un peu ce que je disais précédemment là, par rapport au processus de création qui est constant. Là. Puis on a beaucoup aussi parlé de book dans l'émission, là, donc je trouve qu'il y a vraiment Oui, le côté de l'ajustement, de la recherche, puis oui. Je terminerai là-dessus.
Mais c'est parfait. De toute façon, il faut bien terminer. Hein, comme on a vu, les pubs d'exposer partir à ce moment-ci de l'émission. On laisse faire ça aujourd'hui. C'est aussi une des différences avec l'écriture, tout ce qui se passe live, comme la scène, comme la radio. Mm-hmm. C'est des univers imprévisibles où il y a des choses qui peuvent arriver qui sont en dehors de notre contrôle. Puis je pense que ça fait la beauté de ces arts qui vivent d'une autre manière que le texte. Enfin, pour réfléchir à tout ça aujourd'hui, nous étions avec Irma Bouchard, dont on peut lire les 22 articles sur le carnet de la fabrique du numérique. Elle y parle de différents projets littéraires et culturels. Allez voir ça, c'est passionnant. On suit également la publication prochaine d'une recherche dans un ouvrage collectif et celle d'un texte de création dans un zine qui sera sous la direction de Céline Hugenberg. J'ai vraiment toujours de la misère avec son nom.
Hugenberg.
Désolé, Céline. Et Michael Trahan. Steven Lipotvin, de ton côté, tu es actuellement en tournée partout au Québec avec la pièce Gaz Bar Blues. On vous invite bien sûr à vous procurer l'incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité de l'Avenir qui est parue chez Dramaturge Éditeur, mais surtout à voir ce spectacle. Il y a un lancement là, qui va avoir lieu au Salon d'Edgar dans le cadre du Carrefour Théâtre de Québec le 30 mai. Ça va être sous forme de 5 à 7, donc c'est une manière là, d'aller voir des extraits de ce spectacle. Steven travaille également sur la création d'un album solo à la guitare, donc on a hâte de pouvoir écouter tout ça. Merci à vous deux. Merci.
Merci
à tous.
C'était donc le dernier épisode de la saison. On va se retrouver fort probablement à l'automne, c'est à voir. Je laisse entre les mains de la co-animatrice du jour que je remercie également beaucoup. Merci. D'avoir été là.
Merci à vous.
Et peut-être, qui sait, on entendra ta voix l'année prochaine à la place de la mienne.
Pour animer
cette émission, c'est à voir. Alors, on remercie également toutes les invitées de cette saison qui ont généreusement accepté de venir partager leurs textes, de venir en discuter au micro de Chiz 94.3. Et un autre remerciement pour Étienne Quirion, celui qui a fait le montage des thèmes musicaux qui nous ont accompagnés toute l'année. On se laisse sur une chanson en lien direct avec notre thème. Ça s'appelle « Tomber pour la scène », c'est de l'impératrice. Et c'est paru en 2021 sur l'album « Taco Tsobo ». Alors, à bientôt tout le monde et merci encore.